Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté une affaire criminelle de 1998 à Paris dont la victime est un architecte japonais qui s'appelait Akira Ojima, tué par un Français, Jean-Pierre Reine, qui se disait samouraï et investi en quelque sorte d'une mission d'honneur pour une famille japonaise à laquelle Akira Ojima devait de l'argent. Et comme je suis un peu conscient d'avoir manipulé par exemple le mot samouraï sans trop savoir de quoi il s'agissait, je me tourne donc vers un spécialiste de la culture japonaise, Pierre-François Souiri, qui a écrit sur les samouraïs un livre qui s'appelle « Les guerriers dans la rizière, la longue histoire des samouraïs » paru chez Flammarion et qui vient de publier chez Perrin « Nouvelle histoire du Japon ». Alors première question, est-ce que vous connaissiez cette histoire ?
Alors, je ne connaissais pas cette histoire parce que je vivais au Japon au moment où elle a eu lieu, à la fin des années 90, et je me suis renseigné évidemment. Je trouve cette histoire absolument invraisemblable. Incroyable.
Alors, est-ce que vous, qui êtes un spécialiste de culture japonaise, vous y voyez des traces de cette culture ?
Bon, écoutez, franchement, non. Les protagonistes de cette histoire sont pour partie des Japonais. Mais bon, les histoires d'architectes à Paris, tout ça, ça fait partie, disons, ça n'a pas grand-chose à voir avec la culture japonaise en tant que telle. Le personnage qui se rapprocherait le plus, si je peux dire, de cette culture japonaise telle qu'elle est fantasmée, c'est celui qui se fait appeler Carol, qui se prend pour un samouraï, c'est-à-dire qui rêve, enfin, il est dans un univers de rêve et il est dans un imaginaire qu'il a fabriqué lui-même et qui correspond évidemment à son propre imaginaire, mais à aucune réalité japonaise sérieuse. Je veux dire, les samouraïs ont disparu il y a 150 ans.
On va revenir là-dessus tout à l'heure, Monsieur Souiri. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, parce que vous venez de dire une culture fantasmée, ça voudrait donc dire que éventuellement moi et tous les autres qui avons raconté cette histoire, on a collé dessus l'idée qu'on se fait de la culture japonaise et que c'était pas le cas?
Non, ce que je voulais dire, c'est que le dénommé Carol s'est inventé un univers imaginaire à propos des samouraïs. Alors, je connais pas suffisamment le personnage pour en parler beaucoup plus, mais enfin, cet univers est fantasmé. Cet univers n'existe pas, il n'existe que dans son propre cerveau, si je puis dire. Il n'existe rien de tel dans la société japonaise d'aujourd'hui. Les samouraïs, j'ai commencé à le dire, ont disparu il y a plus de 150 ans. Donc, se référer à cet univers-là, c'est se référer à une société qui a disparu il y a 150 ans. Donc, la reconstituer de façon imaginaire comme ça dans la France d'aujourd'hui, ou il y a 30 ans, maintenant, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est un délire qui relève plus de la psychiatrie, à mon sens, que d'autre chose.
C'est-à-dire, il ne peut pas avoir suivi, d'une manière ou d'une autre, en France ou au Japon, un enseignement pour devenir samouraï.
Mais ça n'existe pas. Un samouraï, c'est un seigneur, c'est un féodal, qui peut être le vassal d'un seigneur ou pour, à son tour, posséder des vassaux. Là, on est dans un univers fantastique, si vous voulez. Il n'y a pas de vassaux, il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de... Tout ça, ça relève du fantasme.
Ayuko Umeda, donc la fille de ces gens qui auraient été spoliés dans la rénovation de leur hôtel et qui ont été obligés de le vendre. Elle en joue de ça. Elle dit « Ah ben oui, il a les cheveux longs, il s'habille comme un samouraï ». Elle sait que ça n'existe plus, elle.
Ah ben bien sûr qu'elle le sait. Elle le sait, mais elle le laisse jouer sur ce rôle de... je ne sais pas quels étaient leurs rapports, si c'était son amant ou pas, mais elle joue là-dessus, ça c'est évident. Les samouraïs avaient pour certains les cheveux longs, mais d'autres n'avaient pas les cheveux longs. Enfin, je veux dire, bon, ils vivaient dans une société qui n'existe plus. C'est un autre univers, hein. S'imaginer qu'on peut recréer cet univers comme ça, ça relève de la psychiatrie, ça relève pas du tout de la réalité de la société japonaise d'aujourd'hui. Au Japon, il n'existe plus de samouraïs, les yakuza, c'est complètement autre chose, ce sont des gangsters, qui, eux, ont un vague code de l'honneur, mais comme on en trouve dans beaucoup de sociétés mafieuses, hein, la mafia italienne, la Camorra, ou aussi ont un code de l'honneur qui ne relève pas du tout du code de l'honneur des samouraïs, mais qui relève d'un certain code de l'honneur inspiré de la féodalité d'autrefois. Mais tout ça relève évidemment de pratiques qui sont très, comment dire, qui sont à géométrie variable. Hein. On est loyal jusqu'à un certain point. Dans la réalité, les samouraïs étaient donc pour la plupart les stipendiés de leur seigneur. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient en quelque sorte à leur service et ils devaient donc s'acquitter d'un certain nombre de tâches, pas nécessairement des tâches militaires d'ailleurs, mais s'acquitter d'un certain nombre de tâches pour leur seigneur. Ceci était donc en échange de ces tâches qu'ils effectuaient, le seigneur leur garantissait en quelque sorte un revenu et leur accordait sa bienveillance, comme on dit dans le vocabulaire japonais.
Alors, tout ça était très, très intéressant, Pierre-François Souhiri, mais moi j'en reviens à mon histoire. Parce que ce que j'entends, c'est que donc Mademoiselle Umeda, qui est japonaise et qui est au centre de cette affaire, puisqu'il s'agit de venger ses parents, elle en joue quand même beaucoup du mythe japonais. Est-ce que ça veut dire que les Japonais s'amusent de la culture complètement faussée qu'on leur colle dessus et qu'ils en jouent?
Moi, j'aurais tendance à dire, il y a un peu de ça aussi. Oui, oui, bien sûr. Il y a un peu ça. Il n'existe nulle part au Japon d'enseignement pour être samouraï. Ça n'existe pas. C'est à peu près comme si vous me disiez, est-ce qu'on peut apprendre à être un chevalier dans la France aujourd'hui? Ben non. Oui. Ça n'existe pas. Bon. Alors, il y a des écoles d'arts martiaux. Ça, c'est autre chose. On apprend le maniement du sabre, le tir à l'arc ou du karaté. Enfin, bon. Ça, c'est autre chose. Mais, s'imaginer samouraï, ça relève encore une fois de l'imaginaire du bonhomme.
Oui, mais elle le dit, donc elle vient conforter la faute qu'on fait tous, quoi.
Je pense que, si vous voulez, elle avait certainement besoin d'un homme de main. Enfin, je ne connais pas assez l'histoire pour en parler. Mmh. Mais cet homme de main, se prenant lui-même pour un samouraï, il lui a dit, bien alors, dans ce cas-là, si tu es mon samouraï, tu feras ceci et tu feras cela. Elle en a certainement joué. Jusqu'à quel point, je n'en sais rien. Mais... en tout cas, leur rapport, en tout cas, leur relation me paraît, en tout cas, vu de l'extérieur, comme ça, extrêmement ambigu.
Alors, il y a encore deux choses qui, apparemment, collent à l'idée qu'on se fait de la culture japonaise. Il y a d'abord cette histoire de code d'honneur. Ce qu'on comprend, c'est que cette fille se sent investie de venger ses parents, qui ont été ruinés à cause de Ojima. Ça existe, ce code d'honneur? Il est plus prégnant au Japon qu'en Europe?
Moi, je pense qu'il n'existe pas plus que dans nos sociétés à nous. Ce code de l'honneur, comme vous dites, c'est quelque chose qui existait effectivement dans la société d'autrefois. En tout cas, pour ce qui est des samouraïs, qui ne représentaient que 5% de la population, tous les autres japonais ne connaissaient pas le code de l'honneur. Ça n'existait pas pour eux. Mais pour les oncles, les 5% de samouraïs, peut-être. Mais elle, je ne sais pas, est-ce que cette famille de cette femme était une famille d'origine samouraï? Est-ce qu'on racontait dans cette famille que le grand-père, l'arrière-grand-père, était un samouraï? Je n'en sais rien. Mais il est possible, dans certaines familles, disons japonaises, de tradition noble, on va dire, il y a effectivement ce culte de la lignée des ancêtres et se dire descendant de samouraï, ça fait bien. Mais pour 99% des Japonais d'aujourd'hui, personne ne sait si l'arrière-grand-père était samouraï ou pas.
Oui, bien sûr. Alors il y a une dernière chose, Monsieur Souhiri, qui colle à l'idée, une fois de plus, qu'on se fait du Japon, c'est le double suicide de Ayuko Umeda et ensuite de Jean-Pierre Reine, alias Carole. C'est le fameux harakiri qui est dans notre imaginaire, quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui est typiquement japonais.
Oui, alors le seppuku, effectivement, est une pratique parmi les samouraïs japonais d'autrefois, qui a largement disparu, bien entendu. Dernier seppuku relevé, c'est celui de l'écrivain Mishima en 1970. Mais ça avait fait un scandale monumental au Japon, cette affaire.
Mais comment vous appelez ça, là? Vous dites beaucoup?
C'est beaucoup, oui. Non, il y a deux manières de dire le mot. Hein. Il y a harakiri, oui, qui est le mot habituel, enfin en France en tout cas. Et au Japon, on dit seppuku.
Donc, malgré tout, il y a dans un fond de culture japonaise cette idée que quand on est déshonoré, il faut en finir.
Oui, oui, enfin, le seppuku, enfin, le harakiri, c'était une mise à mort extrêmement codifiée à l'époque, disons à l'époque d'Edo, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 19e siècle. On ne se faisait pas harakiri comme ça. Il fallait qu'il y ait un ensemble de personnes, les juges qui étaient présents, il y avait la personne qui vous coupait la tête une fois que vous avez piqué le ventre. Ça ne se faisait pas dans n'importe quelle situation. Et la plupart du temps, d'ailleurs, dans la réalité, ils ne s'ouvraient pas le ventre. Ils avaient simplement un éventail devant eux qu'ils saisissaient, oui, et au moment où ils saisissaient l'éventail, la personne qu'ils avaient choisie pour leur couper la tête abattait son sabre. En fait, c'était une manière un peu particulière pour les samouraïs qui étaient condamnés à mort de ne pas être pendus ou décapités à la hache ou ce genre de choses qui était le sort en quelque sorte des gens du commun. Eux, ils avaient ce rituel qui était un peu particulier.
Donc, quand Ayuko Umeda se suicide et qu'ensuite Jean-Pierre Reine, faux samouraï, alias Carole, le fait à son tour, ça relève toujours de la folie et toujours pas de la culture japonaise.
Bah, ça relève du suicide. Le suicide n'est pas une pratique uniquement connue au Japon. Ça existe un peu partout dans le monde. On peut pas associer. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il existe en Occident, parce que les Japonais les samouraïs japonais pratiquaient le seppuku, qui a beaucoup, stupéfait les Occidentaux et même les a un peu écœurés, puisqu'on les a obligés à participer, à assister à certaines cérémonies de ce type-là dans les années 1860. Il y a des descriptions épouvantables qui ont été faites à ce moment-là. Et il y a eu aussi, bien sûr, l'affaire des kamikazes, qui a beaucoup stimulé aussi l'imaginaire, puisqu'on obligeait les jeunes gens à se suicider en quelque sorte en se jetant sur les porte-avions américains avec leur avion. Donc tout ça a stimulé chez nous, en Occident, l'idée que les Japonais se suicident facilement. Mais quand on regarde les statistiques sociologiques, ils ne se suicident pas plus que les Coréens ou pas plus que les Français. Alors ça dépend des années, bon, des fois il y a des poussées, mais enfin bon, c'est pas spécifique à la société japonaise, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Je vous remercie infiniment Jean-François Souhiri de nous avoir aidé à dépoussiérer cette histoire de nos a priori japonais et des a priori que semblaient en avoir les protagonistes. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître chez Perrin, Nouvelle histoire du Japon. Et pour tous ceux qui s'intéressent aux samouraïs, votre livre de l'année dernière, Les guerriers dans la rizière, la longue histoire des samouraïs, livre paru chez Flammarion.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.